Voici un petit geste quotidien auquel nous ne faisons plus attention. De l'index, on appuie sur un bouton et la lumière fut, ou plus exactement est, cette lumière électrique devenue tellement naturelle. Cette semaine, et à l'occasion des 80 ans du ciel, le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, nous vous racontons le parcours de l'électricité en Touraine. Nous sommes accompagnés de Ronan Viguier, chercheur en histoire de l'électricité et prof d'histoire géo à Saint-Denis en région parisienne. Bonjour Ronan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cette semaine dans l'Histoire en Touraine. Tout d'abord, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, chercheur en histoire de l'électricité. La fée électricité, ça vous a toujours passionné ?
Alors, ça m'a toujours passionné, je sais pas. C'est un professeur qui m'a passionné de cette histoire de la fée électricité.
Souvent, ça passe par un prof, oui, c'est vrai.
C'est vrai. Le professeur, c'est important en histoire-géographie. Je pense qu'on transmet beaucoup de la discipline avec sa personnalité. Donc, c'est d'abord ce professeur qui m'a intéressé à l'histoire de l'électricité, oui.
Et l'électricité, c'est magique encore pour vous ?
Alors, l'électricité, c'est magique et on oublie que c'est magique, comme vous l'avez bien rappelé en introduction, Denis. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'intéresse quand on fait de l'histoire, c'est de se souvenir de ce que c'est que ce geste, ce que ça a été que d'allumer cette lumière, de découvrir ces illuminations et cette fée électricité. On l'a trop souvent oublié.
On va en parler, bien sûr, cette semaine. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, qu'est-ce qu'on appelle le ciel, le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire ?
Alors, le ciel, donc, comme vous l'avez dit, c'est un syndicat intercommunal. Il y en a dans plusieurs départements, tous les départements de France.
Oui.
Il représente les communes, les propriétaires du réseau et concède la gestion de ce réseau aux grandes entreprises d'électricité. Donc il est là pour représenter les intérêts des citoyens finalement. Historiquement, il s'est positionné, enfin les syndicats se positionnent pour l'électrification de ce qu'on appelle les écarts, en fait les espaces périphériques et surtout l'électrification rurale.
C'est, alors pour bien vous comprendre, là on parle plutôt de l'éclairage et de l'électricité publique.
Oui, on parle d'apporter l'électricité dans les fermes isolées, dans les espaces isolés. Après, l'usage qui va en être fait, après, c'est le citoyen qui décidera. Mais oui, on parle de cette électrification-là.
L'histoire en Touraine, Denis Tuillier.
Si on doit parler des tout débuts de l'électrification de notre région, il faut remonter en quelle année ?
On remonte historiquement, alors c'est dans cette région, mais c'est dans toute la France, hein, plutôt dans la seconde moitié du 19e siècle. On a des initiatives individuelles, on se rapproche des sources de production. Il y a un exemple qui est d'actualité puisque le ciel aimerait relancer cette centrale de production, c'est le barrage de Descartes, qui est un barrage qui est construit dans la seconde moitié du 19e siècle et que le ciel espère la relancer d'ici 2019, je crois.
Alors quand on parle des tout débuts de l'électrification de la région, ça commence par quoi et comment ?
Ça commence par un industriel, pour filer un peu l'exemple de Descartes, ce sont des imprimeurs, c'est les industries MAM, qui décident d'intégrer un petit peu plus cette industrie et de posséder une entreprise de papier. Et donc, pour construire cette papeterie, il faut une source d'énergie et on décide de s'installer à côté donc d'une source d'hydroélectricité et on construit à côté de la papeterie une centrale hydroélectrique.
Alors pour bien vous comprendre, Renan, ça veut dire qu'à la même époque, les Tourangeaux ne sont pas équipés en électricité ?
Pas forcément. Il peut y avoir d'autres initiatives qui sont individuelles. Vraiment, il s'agit d'entreprises individuelles, d'industries à ce moment-là.
D'accord. Mais les particuliers n'ont pas l'électricité dans la maison ?
Ils peuvent l'avoir, justement. Alors,
s'ils ont un peu de sous ?
S'ils ont des sous et si la centrale produit assez pour non seulement alimenter l'usine, dans le cas des entreprises MAM, c'est cette papeterie, et produit un petit peu plus et va pouvoir vendre ce surplus à la cité ouvrière. C'est le cas à Descartes, par exemple. Le barrage de Descartes alimente à la fois l'usine de papier et la cité ouvrière des ouvriers qui travaillent dans cette papeterie.
D'accord. Donc, si je vous comprends bien, ça veut dire qu'il faut quand même avoir les moyens au départ, hein, c'est-à-dire à la fin du 19e, pour s'équiper en électricité.
Hein. Oui, de toute façon, il s'agit toujours un petit peu d'argent dans cette histoire de grands réseaux techniques. Et c'est là où, quand la puissance publique, les syndicats intercommunaux entrent en jeu, les syndicats départementaux, sont là pour rappeler qu'il y a autre chose que la logique capitaliste, entrepreneuriale et donc financière, et qu'il y a aussi un service public de l'énergie qui doit se mettre en place, un service public de l'électricité.
Cette semaine, nous allons vous raconter l'électricité, la fée électricité en Touraine, l'électrification de notre région, en compagnie de Renan Viguier, je le rappelle, hein, qui est chercheur en histoire de l'électricité et qui aussi enseigne l'histoire géo en région parisienne.
De Sainte-Maure à Chaumont-sur-Loire, de Saint-Avertin à Chinon, France Bleu, c'est la radio de la Touraine.
Extrait du tout dernier album des Kids United, ça s'appelle Mama Africa. On écoute un petit peu de pub et puis on retrouve notre invité de cette semaine, c'est Renan Viguier, il est professeur d'histoire géo. C'est un passionné de l'électricité et à ce propos, il nous raconte tout au long de cette semaine l'électrification de la Touraine.
Tous les jours sur France Bleu Touraine, nous faisons nos valises et nous partons en voyage. À travers le monde ou à seulement quelques kilomètres de chez nous, nous découvrons ensemble les destinations de vos futures vacances. Venez également nous raconter vos voyages et vos escapades et partager en direct vos bons plans. Vous pouvez dès à présent vous inscrire au 02 47 38 10 20. Carnet de voyage tous les jours de 10h35 à 10h50 sur France Bleu Touraine.
France Bleu vous fait prendre le large du 27 septembre au 2 octobre avec le Grand Pavois de La Rochelle. Plus de 700 bateaux, un espace pêche de référence, toutes les nouveautés et toutes les passions nautiques réunies. Jouez toute la semaine avec France Bleu et gagnez votre thalasso sur l'île de Ré.
Pour jouer et tout savoir sur le Grand Pavois, francebleu.fr, rubrique événements.
Place à la fée électricité cette semaine dans l'histoire en Touraine, en lien avec les 80 ans du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire. Nous sommes accompagnés de Renan Viguier, qui est chercheur en histoire de l'électricité et également professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Renan, quand on parle d'électricité, est-ce qu'on parle obligatoirement de lumière électrique ?
Non, et ça c'est assez intéressant dans un temps où on se pose beaucoup de questions sur la transition énergétique. C'est intéressant de comprendre qu'en réalité, il y a souvent des systèmes énergétiques qui vont non pas être en concurrence, mais en synergie. La lumière, c'est exactement le cas, puisqu'on peut avoir à la fois des villes qui vont être éclairées grâce au gaz, et en même temps des villes qui vont être éclairées grâce à l'électricité.
Alors, on parle d'abord du gaz.
Oui, mais c'est pas parce qu'il y a l'électricité qui arrive qui remplace automatiquement le gaz. C'est pas ce qu'il faut voir. Il y a vraiment des transitions qui sont beaucoup plus douces que ça.
On est à quelle époque, on va dire, quand la lumière commence à arriver en Touraine ?
Alors, elle arrive en Touraine, elle commence vraiment à se développer. Je dirais que c'est dans l'entre-deux-guerres qu'on a vraiment cette période d'électrification un petit peu plus générale du département. C'est le cas en Touraine, mais c'est le cas aussi dans toute la France.
Alors, elle est distribuée de quelle façon ? Ça doit être encore assez artisanal à l'époque.
Oui, alors, si j'ai pris cette date de l'entre-deux-guerres, enfin cette période, c'est que techniquement, on peut, à partir de ces dates-là, donc à peu près les années 20, transporter l'électricité sans trop de pertes en ligne. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut amener de l'électricité à des centres de consommation plus importants.
Cette électricité, elle est produite de quelle façon ? On est encore loin des centrales nucléaires, encore à l'époque, hein, évidemment. Hein.
Elle peut être produite grâce au charbon, elle peut être produite grâce au gaz, elle peut aussi être produite grâce à la force de l'eau, c'est les usines hydroélectriques.
L'histoire en Touraine, Denis Cuillier et son invité.
Deux mots sur James Watt, qui nous est cher désormais à France Bleu Touraine, puisque nous sommes au 40 rue James Watt. On peut parler aussi de cet inventeur du 18e, hein, qui travaillait avec la machine à vapeur à l'époque. Hein.
Oui, il fait partie de ces grands inventeurs donc des techniques de l'industrie au 19e. Siècle. Et évidemment, sa machine à vapeur va permettre ensuite de créer une force phénoménale. Et cette force, elle peut être alimentée par le charbon et ensuite elle va être alimentée par l'électricité.
C'était important qu'on dise quelques mots sur James Watt, qui est notre adresse donc à Tours. C'est les villes d'abord qui vont être équipées ?
Oui.
Est-ce que c'est les milieux urbains, les centres urbains qui vont être d'abord équipés ?
Alors, c'est pas aussi simple parce qu'en fait, alors évidemment, les centres urbains vont être équipés assez tôt, mais il peut y avoir aussi des centres ruraux qui vont être équipés. Je dis centres ruraux parce qu'ils vont avoir à proximité donc d'un village, par exemple, une source d'électricité abondante qui pourrait être une chute d'eau, par exemple, ou une rivière qui est très puissante.
Est-ce qu'en France, on est plutôt à la pointe, à la fin du 19e et au début du 20e, ou on est un petit peu en retard ? Par exemple, je disais que la première ligne à haute tension naît en Allemagne en 1891. Est-ce que la France est à la pointe de l'électricité à l'époque ?
La France est assez bien placée, oui. Dans l'entre-deux-guerres, vraiment, elle est à la pointe. Il y a les premiers réseaux régionaux qui sont créés à ce moment-là, dans les années 20-1930 à peu près. Et la France est très en avance, oui.
Alors, quand on parle des premiers équipements, vous nous avez parlé en Touraine de l'entreprise MAM, hein, tout d'abord. Hein. Mais ensuite, quand on parle des gens qui ont les moyens de s'offrir l'électricité, dans mon esprit, je me dis que ça ne doit pas être une électricité très puissante. J'ai l'impression qu'on ne peut pas équiper toute la maison. Si on a l'électricité, c'est pour s'éclairer, par exemple.
Ah, c'est intéressant votre question parce qu'en fait, les compagnies d'électricité, avant de vous apporter l'électricité chez vous, donc dans les années 20-1930, elles vous proposent d'abord les usages. Et ça continue d'ailleurs après avec la création d'EDF. Il y a dans les années 50 et encore, je crois, dans les années 60, des femmes qui font le tour des villes. village et qui font la promotion du matériel électrique, machine à laver par exemple,
oui.
Pour pousser à la consommation, et c'est donc la consommation qui va aussi tirer l'équipement.
On va voir ça tout au long de cette semaine dans l'histoire en Touraine, à l'occasion de l'histoire de l'électricité. Et, je le rappelle, ce rendez-vous cette semaine est en lien direct avec un anniversaire, les 80 ans du CIEL, le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire.
Pour réécouter et podcaster les émissions de France Bleu Touraine, France